Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio Galilée et Radio VM. Au micro, Renaud Grégoire. Il y a un peu d'effervescence aujourd'hui dans les studios parce qu'au moment où vous allez entendre cette émission, vous allez le savoir, mais au moment où nous, on enregistre cette émission, nous venons de savoir le nom du nouveau pape, le pape Léon XIV, et ce qui est merveilleux aussi aujourd'hui, nous avons avec nous Mme Diane Légère, qui est coordonnatrice diocésaine de la catéchèse au diocèse de Moncton. Bienvenue, Mme Légère.
Merci beaucoup. Merci pour prendre le temps de s'entretenir avec notre coin du pays.
Voilà, et on était un petit peu inquiète à savoir est-ce qu'on aurait le nom du pape avant d'enregistrer l'émission. Et oui, nous l'avons eu et nous aurons donc la chance de le découvrir au cours des prochaines semaines. Mais au moment où l'émission va être diffusée, on aura plus de connaissances de qui il est. Madame Légère, oui, nous sommes très heureuses vraiment, et je parle au nom de l'Office de catéchèse et des auditeurs, auditrices, d'aller vous joindre à Moncton, au diocèse de Moncton. Merci beaucoup d'accepter cette invitation de nous parler de votre diocèse d'abord. Parlez-nous de votre diocèse de Moncton.
Le diocèse se situe filant la côte sud-est de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, notre région est majoritairement francophone, avec une population anglophone qui est surtout ancrée dans le milieu métropolitain du Grand Moncton. Même si on voit une diversité culturelle qui s'installe dans nos coins à cause de nos usines, c'est surtout des anglophones qui s'en viennent dans notre coin pour trouver du travail. Mais on reste quand même un diocèse francophone avec une notation de donner des services aux paroisses anglophones du diocèse.
Alors, quelle est à peu près l'étendue du diocèse en termes de paroisse, en termes de géographie?
On fait la frontière de l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, et on fait toute la côte sud-est jusqu'à la ville de Miramichi. Donc, c'est vraiment un territoire mal formé, disons, mais et assez grand. Mais parce que de la centrale de Moncton, c'est comme 2 heures de route pour s'en aller d'une extrémité à l'autre. Et ça, c'est avec la grande route, là, c'est pas de des villes. Donc, 2 heures, 2 heures 30 de route, fait qu'on peut voir que c'est très étendu.
Madame Légère, quelques mots sur votre évêque, votre archevêque de Moncton.
Notre archevêque, Monseigneur Guy Desrochers, nous est arrivé il y a déjà 18 mois, après l'acceptation de la démission de Monseigneur Valery Vionneau, qui a siégé avec nous autres pour 10 ans. Donc, lui, c'est un Acadien. C'est notre première expérience avec un archevêque franco-ontarien, ou pas un Acadien, disons, parce qu'on a tout le temps eu des Acadiens. Donc, c'est une première expérience et il apporte ses couleurs, certainement, voir siéger au diocèse de Pembroke, donc un diocèse bilingue aussi. Jusqu'à date, je pense qu'il s'adapte, il commence à parler chiac, on est très contents. C'est tout le temps un de nos défis avec nos nouveaux prêtres qui viennent de l'extérieur. Il faut leur apprendre le chiac, parce que sinon, ils ne comprendront pas nos participants aux Eucharisties qui sont déjà d'un certain âge. Ni nous, viens manger chez nous. Il faut qu'on sache comment accueillir ces paroles-là parce que c'est pas normal comme vocabulaire.
Ah, c'est tout à fait charmant ce que vous nous dites, parce que l'Évangile, parce que la parole de Dieu, elles doivent être entendues dans toutes les langues, et ça inclut le chiac, si je comprends bien.
Oui, absolument, absolument.
Madame Diane Légère, vous êtes coordonnatrice diocésaine de la catéchèse. Parlez-nous un peu, avant qu'on parle du projet d'évangélisation, parlez-nous un peu de vos responsabilités. À quoi ça correspond d'être coordonnatrice diocésaine de la catéchèse?
Donc, moi, je m'occupe du côté francophone. On a un autre coordinateur du côté anglophone qui développe des programmes de catéchèse. Et on s'est toujours donné comme objectif d'avoir un programme catéchétique similaire à travers le diocèse. Donc, on le travaille au diocèse, on y trouve les ressources et on offre aux paroisses, après ça, des moyens pour catéchiser nos jeunes familles qui ont des enfants de 6 à 12 ans. Donc, c'est vraiment un travail de coordination à la grandeur du diocèse pour les paroisses francophones. Puis, on essaye d'établir des similitudes ou au moins un respect de différents moyens de fonctionner par rapport à leur réalité locale.
Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur la question des initiatives catéchétiques, mais d'abord, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est vraiment la lettre pastorale du mois d'avril 2025, le projet d'évangélisation diocésain et la réforme des structures paroissiales. Donc, c'est le projet d'évangélisation que votre archevêque a lancé dès le mois d'avril 2025, ce qui fait à peu près un petit peu plus qu'un mois finalement.
Oui, le travail de restructuration paroissiale et la structure, ça s'est commencé déjà presque un an. Et c'est les prêtres qui travaillent sur l'évaluation de qu'est-ce qui se passe dans leur paroisse physiquement, en bâtiment, les réparations à faire, les améliorations à faire. Et depuis avril, comme vous le dites, on y a mis une équipe en place pour justement discuter de comment maintenant qu'on travaille la pastorale. Les prêtres travaillent sur la restructuration. Nous autres, on travaille pour rendre notre diocèse beaucoup plus missionnaire, beaucoup plus évangélisateur. Donc, comme objectif de vraiment dynamiser nos paroissiens, dynamiser notre église pour justement pas juste s'inquiéter de le bâtiment, le clocher qui va tomber, la toiture qui doit être faite, mais s'occuper vraiment de nos gens et des gens qui se sont éloignés de l'église pour quelques raisons.
Alors, il y a quand même une évaluation de ce qui se passe au niveau, je dirais, bâtiment, au niveau des gens qui fréquentent les paroisses, les lieux, les mouvements. Mais tout ça, c'est vraiment pour faire comme un portrait de où est le diocèse, l'archidiocèse actuellement de Moncton.
Justement, oui, justement, parce qu'on voit qu'on a l'esprit clocher, on a la difficulté à décider de fermer des églises, même s'ils sont très peu utilisés. Donc, il veut vraiment que le travail soit fait de la base avec les prêtres, avec les affaires économiques des paroisses pour que justement qu'ils disent, mais gars, la réalité nous dit que la paroisse est en déclin. On doit fermer les portes malheureusement. Donc, c'est pas l'évêque qui impose par rapport à le manque de soutien qu'ils ont. C'est la doyenné qui doit décider quelle paroisse ou quelle église qu'on devrait soutenir davantage afin que on peut se donner des services assez bien dans qu'est-ce qui reste là.
Alors, il y a une espèce de sagesse aussi de renvoyer au peuple de Dieu la responsabilité de prendre des décisions qui ne sont pas faciles, et c'est bien très clair dans le projet d'évangélisation, dans le texte de Monseigneur. Mais en même temps, vous dites, et c'est très intéressant, il y a quand même, vous voyez dans un deuxième temps, qu'il y a quand même des obstacles aussi ou des conséquences néfastes de la société moderne de consommation et d'individualisme qui touchent les croyants et les chrétiens pratiquants et les catholiques pratiquants. Donc, vous le nommez aussi que ça fait une pression aussi sur les décisions à prendre.
Absolument, parce que notre héritage acadien, qui était très spirituel, s'est souvent tourné vers l'Église pour n'importe quel service, surtout les francophones. Tout notre système d'éducation, notre système de santé, nos institutions financières dépendent tous de nos Acadiens, nos ancêtres Acadiens qui se sont battus pour défendre la francophonie. Donc, ils ont bâti des églises, ils ont bâti des couvents, et là maintenant, on est en train de les perdre petit à petit parce que le nombre de participants sont pas là. Donc, ça fait mal. Ça fait mal de voir, ben, c'est ma mémère qui a bâti ça, là. Elle donnait ses 25 cents à l'église, elle donnait. Donc, il y a cette fierté acadienne-là qui ont peur de perdre ou peur de pas pouvoir le léguer à les prochaines générations. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes parents qui habitent, disons, en ville, mais qui retournent dans leur paroisse natale pour faire baptiser leur enfant. Parce que c'est là leur racine. C'est là où est-ce que leur héritage spirituel et culturel se trouve. Donc, ça fait mal dans ce sens-là. Puis, le Monseigneur doit l'apprendre avec les nouveaux prêtres aussi, les nouveaux arrivants. On a plusieurs prêtres de l'extérieur. Donc, ils devront réaliser cet impact-là et guérir les blessures qui vont être encourues à cause de ça, qui est particulier parce que l'Église nous a soutenus pour tant d'années. Maintenant, ça a un tournant qui va faire mal. On est certain.
Diane Légère, on peut effectivement comprendre que des générations de croyants, de pratiquants qui ont, qui ont vraiment bâti hein, la communauté, qui ont investi et que l'Église aussi a un rôle, elle continue d'avoir un rôle très important. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du détachement. Est-ce qu'on pourrait dire ça, de l'ordre du détachement? Un peu comme dans l'Évangile de Jean, où le ressuscité dit à Pierre, hein, tu allais où tu voulais, mais maintenant, quelqu'un d'autre mettra la ceinture et tu iras non où, là où tu ne voudras pas aller. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, une conversion, une transformation qui est demandée aux gens de votre diocèse?
Absolument. Puis moi, personnellement, je pense que c'est là où le gros tournant va se faire avec nos bénévoles qui travaillent d'arrache-pied dans nos paroisses pour essayer de faire des levées de fonds, pour garder qu'est-ce qu'ils ont là, en leur donnant cet esprit missionnaire-là, l'esprit évangélisateur, ça leur donne une autre mission. Et je pense que ça va faire une tâche importante pour eux de prendre et de lâcher prise avec des bâtiments, puis qu'est-ce qu'ils ont tout le temps fait et qu'est-ce qu'ils se sont toujours battus pour. Maintenant, si l'équipe d'évangélisation porte fruit comme elle devrait les aider à justement mettre leurs énergies pour bâtir l'église pastorale, l'église évangélisatrice et laisser aller faire son deuil pour les structures et qu'est-ce qui nourrit pas nécessairement notre vie spirituelle, en fin de compte.
Alors, il y a quelque chose à laisser, mais il y a quelque chose à accueillir aussi. Donc, cette nouvelle équipe d'évangélisation, parlez-nous un peu de la composition de cette équipe et de son objectif.
La composition est très mixte. La plupart ont été invités personnellement par Monseigneur Desrochers lorsqu'il voyait ou rencontrait des gens qui avaient l'esprit évangélisateur et qui lui parlait comment c'est important d'aller vers les gens et d'évangéliser. On n'a personne sur l'équipe qui se bat pour garder une église ouverte. On est tous des gens, c'est sûr qu'on est en justice sociale, on est en catéchèse, on a deux prêtres, on a des gens qui sont dans les mouvements de vivre et aimer, dans le diocèse. Donc, c'est tous des gens que, pour eux, c'est important d'aller vers les gens et d'offrir et de prier pour les gens. Il a bâti son équipe justement pour qu'on soit fixé sur l'évangélisation, sur notre mission d'église. Et tout de suite, le gros du travail a été de nous convertir nous autres mêmes de l'importance de la prière, l'importance de prier pour le succès de notre église diocésaine, pour la continuité en fonction d'être évangélisateur. Donc, non pas prier pour garder notre église ouverte, mais prier pour devenir davantage et d'apporter les gens de prier. Un projet que Monseigneur a initialisé à la diocèse de Pembroke et qui aimerait de faire ici aussi, c'est de produire un petit carnet de prière qu'on donne aux personnes prises à la maison, qui étaient des fervents pratiquants de dimanche, ils sont plus capables de venir, mais pourquoi pas les inviter à prier pour l'église. L'Église qui peut aller vers les gens et qui peut soutenir les sans-abri, qui peut aider les jeunes familles à retrouver le chemin. Puis, donc, pour lui, c'est important d'aller jusqu'à là, dans la prière, faire prier nos communautés, mais aussi ceux qui se sont éloignés pour des raisons médicales ou par l'âge. Donc, la prière est le central, certainement, qui favorise là-dedans toutes nos réunions et dans le diocèse même. Pour Monseigneur Desrochers, commencer une réunion au niveau du diocèse, puis c'est pour 20 minutes au mois de prière. On n'est pas dans l'esprit de l'évangélisation, puis on n'est pas dans l'esprit de mission. On est là pour le Christ, c'est pas juste faire à notre Père qu'on commence le business. Là. C'est non, on va prendre le temps d'écouter la parole, prendre le temps d'y réfléchir, de prier, des silences ensemble pour justement se laisser habiter par l'Esprit Saint avant de même commencer nos discussions. Donc, il est en train d'installer ça là-dedans. Qu'on a laissé de côté, puis je pense que la plupart des paroisses ou des comités laissent de côté aussi. Oh, ben, c'est une réunion comme d'habitude, puis faire un petit Notre Père ou une prière avant la réunion, puis on passe à l'action. Mais ils essayent d'installer et de nous faire redécouvrir l'importance de la prière.
En effet, dans le projet d'évangélisation, la première phase du projet, c'est la prière. J'étais absolument frappée parce que je me disais c'est comme une petite Pentecôte parce que même les apôtres avec Marie, après la résurrection, se sont mis à prier. Hein, ils se sont enfermés pour prier et l'Esprit est venu. On dirait que c'est un peu le même appel que vous lance votre évêque oui. dans cette première phase de prière.
Oui, puis il dit les prochains 6 mois, il dit même si c'est la seule chose qu'on installe dans notre diocèse, cet esprit de l'importance de la prière pour nous soutenir là-dedans notre mission, il dit on aurait un succès. Donc, on y met beaucoup d'énergie, puis on y met beaucoup de... on est en train de travailler justement le carnet de prière qu'on aimerait offrir aux personnes aux prises à la maison. Puis, donc, c'est tous des petits projets comme ça qu'on va pouvoir réaliser. Ça a été le fun parce que Dr. Pierre-Alain Giffard, qui est le président ou l'animateur du groupe, et il nous a envoyé, je ne sais pas où est-ce que ça sort, mais pour découvrir chacun de nous notre type d'évangélisateur que nous sommes. Donc, dépendant du type d'évangélisateur, parce qu'il y a des personnes qui disaient, ben non, c'est pas le temps de faire de la prière, c'est le temps d'aller sur les coins de rue, puis parler aux gens, puis parler des affaires. Mais il y avait d'autres membres du groupe, c'était, ben non, c'est vrai que la prière, on doit prier ensemble, puis on doit inviter les gens à prier. Donc, par rapport à nos charismes, par rapport au type d'évangélisateur, ça va nous permettre de créer la diversité dans nos comités, la diversité dans nos projets qu'on va entamer. Parce que moi, demandez-moi pas d'aller dans les coins de rue puis dire, mais il y a une couple de jeunes là, dans notre équipe que justement pour eux là c'est on parle du Christ, on parle de l'Évangile quand on rencontre des gens et quand à n'importe quelle occasion qu'on a d'évangéliser. Donc pour eux ça va être leur mission.
À l'émission Questions d'aujourd'hui, nous recevons Mme Diane Légère, qui est coordonnatrice diocésaine de la catéchèse à l'archidiocèse de Moncton. On parlait il y a quelques instants de redevenir missionnaire et souvent on a une image un peu stéréotypée du missionnaire. Et là, ce qu'on découvre, et c'est un peu la démarche de quelques diocèses et qui s'inspirent, on peut être missionnaire de différentes manières. Et vous le disiez tout à l'heure, à la lumière de nos dons, de nos charismes. Pouvez-vous nous parler un peu de comment vous abordez cela avec les gens de votre diocèse?
Mais avec Dr. Pierre-Alain Giffard, qui est l'animateur et le président de notre équipe d'évangélisation, il y a un petit questionnaire qui existe et qui, dépendant de nos réponses aux différentes questions, nous dit quelle sorte d'évangélisateur qu'on serait mieux placé là-dedans. Donc, on pourrait être un évangélisateur intellectuel, capable de faire des blogs, capable de faire des articles, capable... De vraiment utiliser nos connaissances pour le service d'évangélisation. Il y en a d'autres qui sont probablement plus ancrés sur le service. Donc, ils vont pouvoir être en aide avec les sans-abri, avec les gens qui sont de la rue. Moi, c'était dans le côté liturgique. Donc, comment développer des groupes de prière, comment instaurer la prière, mettre de l'emphase sur nos célébrations liturgiques, comment les rendre plus intéressantes, les plus. Donc, c'est chacun de nous autres, d'être sur le comité, on peut déjà se placer là-dedans un ou l'autre type d'évangélisateur et ainsi bâtir une petite équipe et de faire différentes activités, différents projets. Moi, je ne veux pas être la blogueuse, je ne veux pas être la personne qui écrit des articles puis qui fait des blogs, mais dans la Eucharistie, la liturgie, ça, j'aime ça, j'aime d'être ressourcée, j'aime de recevoir de la formation pour mieux célébrer l'Eucharistie.
Alors, est-ce que je comprends bien qu'une équipe missionnaire serait une équipe où il y aurait différents types de missionnaires à l'intérieur?
Il faut. C'est important.
Et pourquoi c'est important?
Parce que sinon, on va juste être réglé sur un projet. Donc là, moi, je fais partie de l'équipe sur la prière, sur développer le petit carnet de prière, parce que je suis liturgiste. Mais les autres qui sont orientés vers les sans-abri puis les cuisines nourricières, c'est pas de leur charisme de travailler ce projet-là. Mais moi, j'en jouis. Je peux donner des heures à faire ça puis à faire de la lecture sur différents types de prières. Donc, étant aussi diversifiés que nous sommes, ça nous permet justement de diversifier nos projets et de bâtir nos équipes d'après nos charismes.
Diane Légère, vous êtes aussi coordonnatrice donc de la catéchèse au niveau du diocèse. Parlez-nous un peu de la catéchèse des jeunes dans votre diocèse.
Donc, d'habitude, la catéchèse, comme presque partout ailleurs, ça va de 6 à 12 ans. On les accueille lorsqu'ils sont au premier niveau à l'école, la majorité du temps. Et ce que nous avons commencé à faire et ce que nous encourageons fortement pour les trois premières années de catéchèse, c'est l'accompagnement des parents. Donc, ça veut dire que les parents viennent à catéchèse avec les enfants. Donc, on leur fait faire des activités, on leur fait parler de leur foi, on les fait prier ensemble, on les fait, les parents parler de qui pour eux est Dieu, qui pour eux est Jésus, pourquoi les sacrements, pourquoi ils les ont fait baptiser. Donc, on essaye de donner les outils aux parents de parler ou de partager de leur foi avec leurs enfants, qui manquent beaucoup parce que nos parents ne sont pas nécessairement évangélisés ou catéchisés, puis on va les laisser à la catéchèse, puis ils leur apprendront ce qu'il y a besoin d'apprendre. Mais on voit que juste quelques sessions de catéchèse, les jeunes n'apprennent pas leur signe de croix si ce n'est pas continué à la maison. Et même qu'on envoie des petits papiers, des petites notes à la maison, ben vous devriez faire le signe de croix, puis vous devriez faire ça, c'est pas fait. Mais là, ils sont obligés de le faire. Et on les encourage après ça de continuer. Vous l'avez fait ce soir, faites le nouveau demain soir, faites un petit coin de prière, prenez le temps de prier avec vos enfants, de faire des activités, de regarder la Bible, parler de l'histoire biblique qu'on a découverte. Donc, on essaie d'outiller les parents à être des catéchistes pour leurs enfants. Avec les niveaux plus âgés, on essaie d'avoir des petits groupes entre enfants pour que les enfants puissent se parler, discuter entre eux de leur foi. Donc, on souhaite que la base, il y aura une base de mise pour qu'après ça, qu'ils peuvent au moins verbaliser leur foi.
Diane Légère, est-ce que vous diriez que, au fond, vous êtes en train d'outiller les parents à pouvoir parler de foi? Parce que plusieurs parents n'ont peut-être pas la manière, ne savent peut-être pas comment aborder sa foi à la maison. Est-ce que vous avez constaté ça, que votre initiative peut aider des parents à justement ouvrir ces dialogues, ces partages à la maison sur la foi?
Je pense que c'est essentiel. Les parents se sentent absolument pas outillés. Ils ont peur de dire la mauvaise chose. Ils ont peur de pas bien expliquer quelque chose. Ben là, ils sont sur les lieux. Et si l'enfant pose une question que lui peut pas répondre, il va avoir un animateur là qui va peut-être le guider dans un style de réponse ou dans quelle direction que le parent devrait répondre. Donc, on permet aux parents d'avoir les mots pour dire en qui ils croient et pourquoi que c'est important pour eux que leur enfant ait de la catéchèse aussi. Ça a été malheureusement des générations de parents qui ne sont pas nécessairement catéchisés, ne savent pas l'importance de la prière quotidienne, l'importance de la célébration eucharistique. On essaie aussi de plus en plus d'inviter les parents de venir s'initier aussi à l'Eucharistie. Il y a des années, ils sont venus au baptême à l'enfant, qui n'est même pas une Eucharistie la plupart du temps. Et là, on les présente à la première communion sans avoir participé à l'Eucharistie. Donc, on essaye de les initier à vivre l'Eucharistie aussi durant ces trois années-là. Venez célébrer avec la communauté, venez découvrir la communauté. Donc, c'est vraiment une initiation de la vie chrétienne qu'on essaye d'instaurer avec les parents. Plus tard, c'est avec les enfants. Là, on va parler de projets dans la communauté, aller faire aider pour des repas, des déjeuners au centre communautaire ou quelque chose comme ça. Ça diminue beaucoup, ces projets-là, depuis COVID, c'est certain, mais c'est quelque chose à rebâtir. Puis les jeunes veulent ça. Les jeunes aiment ça, de participer, des collectes de nourriture, de faire des cueillettes de bouteilles pour ramasser des sous. On fait un projet de carême à tous les ans, c'est avec les petites boîtes de mon ami. Passe, mémé, pépé, c'est le projet cette année, veux-tu nous soutenir? J'ai le paroisse de Grand Moncton qui m'a ramassé plus que 2500 piastres cette année qu'on va pouvoir partager avec mon ami. Donc, c'est les conscientiser qu'il y a un monde plus grand qu'eux, mais conscientiser qu'il y a quelque chose qu'on peut faire.
Diane Légère, je ne voudrais pas qu'on termine l'émission sans parler d'une initiative dont on a parlé lorsque nous avons fait cette pré-entrevue entre nous, d'abord pour préparer cette émission. C'est l'initiative « Mourir dans le Christ, vivre dans l'espérance ». Qu'est-ce que c'est?
C'est un programme qui a été bâti par l'Association des médecins et des dentistes chrétiens du Canada. Qui est justement pour aider les gens, pour présenter aux gens des courtes vidéos de 25 minutes avec beaucoup de discussions, pour présenter le côté chrétien du sens de mourir, de la souffrance, le soutien de fin de vie, le support que la communauté peut donner. Parce qu'ils nous disent, ou que selon eux, les experts dans le domaine, que les gens vont choisir l'aide médicale à mourir pour trois raisons. Ils ont peur de mourir, ils ont peur de souffrir, puis ils ont peur d'être un fardeau puis pas avoir de soutien de leur famille. Donc, on essaye de leur faire découvrir les gens que...
Il y a autre chose.
Oui, il y a autre chose. Il y a de l'espérance. Jésus est venu pour nous montrer que même si la mort était inévitable, on pouvait passer à travers. Il y avait des choses après. Il y avait l'espérance à vivre. On parle de soins palliatifs, de comment l'aider. On dit tout de suite au Canada que 99% des douleurs peuvent être atténuées par rapport à la souffrance. Donc, il n'y a pas de raison de souffrir physiquement. Il y a peut-être des souffrances psychologiques qu'on peut pas moins traiter ou qu'on a peut-être moins d'aide. Mais de la souffrance physique, on n'a pas de besoin, on n'a pas à la subir. Et là, après ça, l'aide qui peut être donnée, c'est l'importance d'en parler à la famille. Ça m'a surpris quand lorsqu'on a fait les présentations, parce qu'on s'en va de différentes paroisses, comment beaucoup de gens n'avaient pas discuté avec leur famille des soins qu'ils voulaient recevoir en fin de vie. Est-ce qu'ils voulaient être réanimés? Est-ce qu'ils voulaient être intubés? Puis quelle sorte de funérailles qu'ils voulaient après? Puis c'est tous des gens qui sont 70 plus, 65 plus, nos pratiquants d'aujourd'hui. Mais personne de eux, beaucoup d'entre eux, n'avaient jamais discuté ça avec leur famille. Et donc, ça met la famille dans des situations des fois terribles et pénibles parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que maman et papa voulaient en fin de vie.
En fait, vous leur permettez d'ouvrir la parole là-dessus et ouais. Même si ça peut être une conversation difficile, émotive, ouais. C'est une conversation essentielle, aussi bien que préparer son mariage, son baptême, de parler de guérir de ce que son parent ou nous comme parents partager ce que nous souhaitons pour notre fin de vie. Et particulièrement si nous sommes croyants, pratiquants, ce qu'on souhaite vraiment, c'est quelque chose que vous ouvrez la parole avec cette initiative, mourir dans le Christ, vivre dans l'espérance. Eh bien, Diane Légère, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Nous avons fait une très belle visite chez vous à Moncton, à votre diocèse. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui.
Merci encore.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Yannick Caron pour Radio Galilée et Lysandre Duplé pour Radio VM. Merci d'avoir été avec nous au micro Renaud Grégoire et je vous dis à bientôt.